Bonjour à vous quatre, même si on s'est salué tout à l'heure. Alors, je vais proposer une règle du jeu, vu le bénéfice de mon grand âge. Je vais me permettre de vous tutoyer. Sinon, ce sera un peu difficile avec Marcel Dubois. Nous avons quelques heures de vol ensemble sur des projets. Et donc, elle, je la tutoierai. Et puis les autres, je les vouvoierai. Donc, si vous me permettez, on va respecter cette règle. Alors, le sujet d'abord, réalité de la vie sociale dans le Québec d'aujourd'hui et leur transcription dans le théâtre. Je dois vous avouer que je ne suis pas sûr qu'on fera le tour de la question aujourd'hui en une heure, mais on va essayer d'aborder ce sujet ensemble à travers d'abord et avant tout votre vécu. Nous avons donc Mariette Navarro, qui est dramaturge, jeune dramaturge, sortie de l'école du TNS à Strasbourg, donc, et qui s'est retrouvée plus ou moins par hasard, on en parlera tout à l'heure, dans cette résidence qui a donné lieu aux textes, dont certains textes en tout cas qu'on entend aujourd'hui. Elle nous parlera à la fois de cette expérience, je pense, assez intéressante pour elle, mais aussi de sa découverte des auteurs québécois. Mario Desmerlet, elle enseigne, elle est chargée de cours à l'Université de Strasbourg aussi, donc c'est une première affinité. Elle est doctorante à Paris 3 pour l'instant, Jean-Pierre Ringard, hein, que nous connaissons bien, qu'on rencontre dans pas mal de débats de ce type-là. Et elle travaille maintenant sur les dramaturges québécois d'aujourd'hui, on en dira plus tout à l'heure. Et il y a eu une petite déviance comme ça de son sujet au départ, on verra pourquoi. Morena Prats, qui est donc comédienne québécoise, transitant par la France, et puis, si j'ai bien compris, se retrouvant aujourd'hui en Belgique. Donc, on va à travers elle pouvoir aussi interpeller la rencontre des auteurs au Québec, des jeunes comme vous, comment s'est faite cette rencontre, des dramaturges dont on parle. Et puis Marcel Dubois, qui est auteur, jeune auteur, oserais-je dire, mais par contre vieille organisatrice, puisqu'elle rappelait tout à l'heure qu'elle a brûlé un certain nombre d'étapes et qu'à la petite vingtaine, elle était déjà, elle a eu cette initiative du jamais lu. Donc elle s'est lancée presque de manière déraisonnable dans la mise en place d'un festival qui survit, mais non seulement survit, mais vit aujourd'hui et, je pense, a pris sa place dans le paysage québécois. Alors, je voudrais vous demander à toutes les quatre d'abord de situer votre rencontre avec les auteurs québécois. Comment ça s'est passé, évidemment, pour les étrangers, d'une part, et puis pour les Québécois. Je pense que le système est un peu différent et que nos auteurs mettent un certain temps en Belgique et en France à être connus du milieu scolaire, par exemple, ce qui est moins le cas chez vous. Alors, on va peut-être commencer par Mariette. Première rencontre avec les auteurs québécois.
Alors, moi, ce qui est particulier, c'est que la première rencontre, c'était directement dans la fabrication des textes. Enfin, bon, je connaissais... comme auteur québécois, pratiquement que Daniel Danis, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, c'est pendant que j'étais à l'école à Strasbourg que j'ai rencontré Sébastien Harrison, dont on entendra un texte tout à l'heure, et qui m'a parlé du Centre des auteurs dramatiques à Montréal, et donc du fait que les auteurs là-bas soient accompagnés dans l'écriture de leurs textes par des conseillers dramaturgiques. Et donc j'y suis allée l'année suivante. Et donc tout de suite, en arrivant à Montréal, en fait, avant même de découvrir le Québec et voilà, tout ce qu'il y a à y découvrir, j'étais plongée dans la lecture de textes, pour la plupart en cours d'écriture. Et voilà, enfin, moi, l'image que j'ai du Québec et de la dramaturgie québécoise, c'est ce bouillonnement aussi et cette quantité de textes qui se travaillent, qui s'échangent, qui se lisent, et des gens qui se conseillent aussi sur l'écriture.
Alors, Sébastien Harrison, on ne va pas jouer le jeu des catégories avec des frontières bien nettes, mais on peut dire que c'est la nouvelle génération des auteurs. Est-ce que cette rencontre t'a donné envie d'aller plonger un peu dans d'autres auteurs des générations précédentes ?
Oui, bah, forcément, en arrivant à Montréal, je me suis un peu documentée, voilà, plongée dans les lectures, mais quand même, le gros de mes lectures, c'était des textes, voilà, même des... Enfin, je ne sais pas combien j'en ai lu, mais même des textes qui n'ont pas forcément abouti, qui sont restés en étape de chantier. Voilà.
Marie-Aude, la rencontre avec le théâtre québécois, l'écriture
Elle est à mi-chemin entre un parcours individuel et un parcours universitaire, en fait. J'ai été amenée à faire un DEA sur Daniel Danis et ça a été en fait une vraie rencontre, enfin, un vrai coup de foudre pour cette écriture-là. Et du coup, en fait, je suis partie au Québec et pendant plusieurs semaines. Et pour mon entrée en thèse, en fait, j'ai voulu poursuivre là-dessus. D'abord en travaillant sur la francophonie, justement, dont tu parlais. Et après, en me recentrant plus spécifiquement sur le Québec. Moi, je connais mieux, en fait, les écritures d'avant, les générations d'avant, c'est-à-dire Normand Charette, René Daniel Dubois, Jean-François Caron, Larry Tremblay, enfin, tous ces gens-là, qui sont juste un petit peu avant. Et c'est comme ça que s'est faite la rencontre, en fait.
Marcel ?
Oui, ben c'est fait. Je sais pas, étrange. Ben enfin, ma rencontre d'abord s'est faite avec le théâtre avant les auteurs de théâtre, puisque ben on en parlait aussi un peu tout à l'heure. C'est quand même le rapport au texte est un peu différent au Québec. Au texte de théâtre, on s'entend, est un peu différent dans la mesure où le théâtre existe beaucoup par l'action et beaucoup moins par l'édition et beaucoup moins dans un rapport de littérature. Donc, quand j'ai su que je voulais faire du théâtre de ma vie à 12-13 ans, je me suis organisée. Je croyais que je voulais être comédienne et tout ça parce qu'on avait très peu de modèles d'auteurs. Et à un moment donné, sur ma route, bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais tu rencontres Michel Tremblay. Tu fais, bon, ben quand même, il y a quelques bonnes pièces dans son répertoire. Et ensuite, tu dis, ah, ben ça a l'air pas mal d'écrire. Et ensuite, j'ai rencontré, comme livre, comme objet, Daniel Danis. Et ça a été le déclic, ça fait... Oui, ben, il y en a des comme ça, hein, c'est un peu le père à tout le monde, on l'aime tous, qu'est-ce que tu veux.
Mais j'ai remarqué tout à l'heure qu'il avait eu un...
Ah, il y a beaucoup d'ascendance sur nous.
Un charme particulier pour séduire nos quatre invités.
Voilà, oui, ben, il est particulièrement formidable dans la vie et dans ses écrits. Et c'est vrai que quand j'ai lu ces textes-là, je me suis dit, oh, mince, c'est déjà écrit, ce que j'aurais pu écrire dans la vie est déjà écrit. Et ensuite, j'ai le goût d'essayer de dire, bon, ben, si lui a agrandi le monde un peu par son écriture, je peux certainement essayer de faire humblement un peu la même chose, ce que j'ai tenté. Et je me suis vite sentie à l'étroit, comme on disait, dans le milieu scolaire. Donc, je ne me suis pas enfargée, heureusement, malheureusement, je ne sais pas trop, mais les pieds très longtemps dans l'université, ni à l'école de théâtre, parce que ça, c'est une particularité où on y reviendra peut-être.
On va y revenir, oui.
Il y a une école de théâtre qui donne un programme d'écriture dramatique. Et moi, j'étais, comme il n'y a pas d'intermittence au Québec pour gagner ma vie, quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'étais serveuse dans un café, comme tous les Québécois. Les meilleurs serveurs, serveuses sont au Québec parce que ce sont tous des comédiens. Tenez-vous le pour dire. Et donc, bref, j'ai travaillé dans un petit café théâtre qui était juste en face de l'École nationale. Et j'ai fait mon école, en fait, parallèlement à l'institution qui était en face. Et moi, j'avais toutes les fêtes soirées où je servais, etc. Et c'est là aussi que le Jamais lu est né. Et ça a été une rencontre de mes contemporains, des auteurs un peu de mon profil, qui avaient le goût un peu de prendre l'espace, de dire des choses dans l'immédiateté, dans l'actualité. Et on a ensemble créé le Festival du Jamais lu, qui existe maintenant depuis 8 ans. Voilà, c'est une longue réponse, hein?
Morena?
Alors, un peu comme Marcel, moi, ça a été beaucoup plus dans l'action que dans la... Comment je dirais? Que par le biais de la littérature et de la lecture, c'est beaucoup plus en jouant que j'ai découvert des textes de théâtre. Jusqu'au jour où je suis allée voir Le Ventriloque de Larry Tremblay monté par Claude Poisson à l'Espace Go. J'avais 15 ans et ça a été vraiment mon premier coup de foudre québécois, je dirais. Ma première rencontre avec tout un univers que je pensais qu'il n'existait pas parce que je connaissais à peu près que Michel Tremblay et tout ça. Donc, à partir de là, je me suis intéressée plus à la littérature québécoise et c'est depuis que je vis en France, j'ai eu comme un besoin de retour, une boulimie de lecture de textes québécois et depuis ce temps-là, en fait, je me questionne beaucoup plus sur la littérature, ce que je ne me questionnais pas avant parce que j'étais beaucoup plus, je me situais plus comme comédienne, comme prête à agir, puis maintenant, un peu moins.
Quand on parle du regard social du théâtre, de la société, comment le théâtre en rend compte, on a entendu tout à l'heure un texte d'Olivier Choignard Moi, pour la c'était la première fois que je l'entendais. Je pense que pour un certain nombre de personnes aussi. Olivier Chouanière est un jeune auteur.
Il a 34 ans précisément.
Voilà, donc il est très très jeune. Sous dépend des repères qu'on a évidemment, mais il est très très jeune. Je voudrais vous demander à toutes les quatre de réagir sur ce texte, non pas sur la qualité du texte, mais sur ce rapport à la société, finalement, donc en partant de Céline Dion pour arriver dans une famille très particulière. Est-ce que c'est assez emblématique de l'écriture des jeunes auteurs d'aujourd'hui au Québec? Qui a envie de se lancer?
Mais il me semble, enfin, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une... pas de complexe à prendre le réel à bras-le-corps. Enfin, le réel, non, c'est un texte qui est tout sauf réaliste, parce qu'il y a tous ces niveaux, mais apprendre des choses du quotidien, d'une société donnée, à un moment donné, et de s'en emparer et d'en faire quelque chose sur scène sans complexe, de dire, mais peut-être que dans 30 ans, on ne saura plus qui est Céline Dion. Ça, c'est quelque chose qui me frappe voilà, dans ce texte-là, mais dans plusieurs autres que j'ai croisés. Enfin, on entendra aussi plus tard celui de Pierre-Luc Lassalle. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me semble très particulier, quoi, de s'emparer de ce qui fait actualité, tout en le mettant en abîme et en travaillant sur le fait que ça fasse actualité, mais sans complexe. Voilà.
Et en donnant, par exemple, une image de la famille assez particulière. Mmh. Cette image de la famille, est-ce qu'on la retrouve dans d'autres auteurs que tu as lus?
Peut-être pas aussi violemment, enfin, mais voilà, le rapport aux faits divers aussi, est pris aussi frontalement que le rapport aux stars. Dans un texte comme celui-là, puis ça s'est senti dans la lecture, qu'il y a pas de peur à aller vers ça, et au contraire une nécessité à pas tourner autour du pot, quoi, et à y aller.
Morena, tu as cette impression aussi? Tu connais Olivier Chouanière?
Pas personnellement, mais je connais...
Tu as déjà lu des
oui,
œuvres?
Oui, oui. Ben justement, mon deuxième coup de foudre québécois, ça a été Venise en Québec, mais beaucoup plus tard. Donc, une autre pièce qui est écrite. Mais ouais, je suis assez d'accord, en fait, au niveau de la prise du réel de cette manière. Mais puis j'ajouterais même que... à cause de la façon dont c'est écrit, ça oblige à une certaine corporalité dans le jeu, ce qu'on retrouve pas forcément, je dis pas forcément parce que c'est pas totalement vrai, mais c'est qu'on retrouve pas forcément dans des textes plus en France par exemple. Il utilise pas énormément de vocabulaire, il va à bras le corps dans tous nos jurons, les sacres, il n'a pas peur, l'utilisation des majuscules aussi, la ponctuation oblige à un jeu hyper corporel, et en ce sens-là, je trouve que c'est assez, ça rejoint beaucoup l'esprit théâtral québécois. Pardon.
Tu veux dire par là qu'il écrit plus une partition qu'un texte?
Ouais, un peu comme Martin Crimp ou d'autres auteurs comme ça. En tout cas, ce texte-là, pas forcément les autres, mais Félicité, c'est vraiment une partition.
Ben, pour ma part, c'est sûr que c'est un peu biaisé puisque je connais très bien Olivier. Mais donc, c'est sûr que je l'écoute avec d'autres oreilles, mais quant à la question de savoir s'il est représentatif, il est certainement représentatif de cette envie, un peu comme Mariette et Mariana disaient, de nommer, de se positionner. Je pense que ça, c'est vraiment un courant assez fort, de se positionner dans l'actualité, dans la vie du Québec, du Québec et plus largement après, en fait, dans la vie des problématiques, en fait, pas des problèmes, mais des problématiques, que ce soit politiques, sociaux, culturels, linguistiques, etc. Donc, il y a vraiment abordé ça. Mais en même temps, Olivier Chouanière, pour moi, c'est l'exception par sa volonté de provocation quand même. et c'est pour ça que moi, j'aime vraiment beaucoup cet auteur-là. Venise en Québec, que tu nommes, tu vas à Montréal, non?
Oui.
Et ça a été, il a réussi le tour de force de chaque soir, la salle était complète Et on ne savait pas avec combien de personnes allaient rester ou sortir. Et au Québec, ça ne se passe jamais. Les gens sont super polis. Et les gens ne sortent pas, ne font jamais scandale.
C'est toujours une ovation debout aussi.
Et donc, d'aller chercher la provocation dans un texte qui, ben, on l'a vu, c'est quelqu'un qui, c'est pas du n'importe quoi. C'est quelqu'un qui maîtrise une plume, qui maîtrise la langue, qui maîtrise sa perdition. Mais il réussit à aller se loger dans le tabou. Et de faire en fait effet provocation. Et ça, à mon avis, il est un des seuls à le faire de cette façon-là. Et même Félicité, à mon avis, ça a été monté très sagement par rapport à ce que c'est. Mais je me rappelle, à l'époque, quand il est sorti au CEAD, la directrice du CEAD se disait « Merde, c'est un comité de lecture le choisi. Je ne sais pas si on peut le monter en lecture. » parce qu'elle avait peur d'avoir un procès collé sur le dos à cause de... Bon, là, on n'en a vu qu'un bout, mais évidemment, ça va très, très loin. À la fois, cette parodie, mais c'est aussi toute l'image d'un Québec qui attend beaucoup de ses icônes et tout ça. Donc, se loger dans cet effet provocation-là, c'est quand même très, très propre à Chouanière, je trouve.
Est-ce que tu serais déjà en train de répondre à la question de base, c'est-à-dire que les auteurs d'aujourd'hui sont toujours aussi préoccupés que les précédents de montrer la réalité sociale de leur Québec?
Ben, je pense que oui, pour travailler comme... juste pour vous placer un peu, le Festival Jamais Lu, c'est un festival qui travaille avec les auteurs émergents. Donc, ça fait 8 ans qu'on existe et chaque année, on a une quinzaine d'auteurs de programmés. Depuis 4 ans, on ouvre aussi à l'international. On a beaucoup travaillé avec l'écriture vagabonde. Donc, c'est vrai que quand même... Donc, en 8 ans, ça fait quasiment 80 nouveaux textes inédits qui ont été... Donc, il y a une réelle vitalité, il y a une réelle envie de définir encore, je pense, les contours de sa société. Ça, je la sens de façon très, très vive. Après, dans l'écriture, dans le matériau même, il y a des familles, ou du moins, il y a des esthétiques, il y a des courants, mais je pense qu'on... Comme l'édition n'existe pas non plus, on est vraiment dans l'envie de nommer sa réalité. Je pense que s'il n'y a pas d'autre meilleur mot pour... Oui, je pense que oui, ça existe encore. Mais différemment, évidemment, je pense que les générations précédentes étaient beaucoup plus sur la politique, là et le politique. Et notre génération, me semble, en fait, très humblement, et évidemment qu'on fait une catégorie, déjà on passe à côté de plein de choses parce qu'on limite par les mots, mais notre génération, à mon avis, semble plus préoccupée par l'actualité que la politique ou le politique. Pour moi, je fais quand même une différence au niveau du sens.
Ok, on enregistre, on va y revenir tout à l'heure, mais je voudrais terminer le tour de table à partir du texte de Chouanière. Marie-Aude va me dire, oui, mais moi, c'est plutôt l'autre génération que j'ai étudiée. Effectivement, mais la question pourrait être, est-ce que tu reconnais dans un texte comme celui-là des textes qui ont été écrits par d'autres précédemment?
Reconnaître, c'est un bien grand mot, mais en tout cas,
il y a une
filiation, je pense, oui, parce qu'à partir, effectivement, Marcel parlait du problème du politique dont les auteurs s'étaient emparés jusqu'à la fin des années 70, et c'est vrai qu'à partir des années, du début des années 80, avec des auteurs comme Chaurette et Dubois, on passe complètement à autre chose, enfin complètement, c'est-à-dire qu'il y a un recentrage sur l'individu, sur l'intime, qui passe aussi par une liberté formelle beaucoup plus vive qu'on retrouve effectivement chez Chouanière dans cette espèce de superposition des différents niveaux de réalité, dans ce jeu de théâtralité exacerbée et dans cette idée de texte-partition, parce que toute la musicalité qu'on retrouve chez Chouanière, on pourrait la retrouver, je ne sais pas si ça va faire... si c'est choquant ou pas comme filiation, mais chez Chaurette, par exemple, le travail sur la musique, enfin, c'est un autre langage, enfin, c'est devenu un langage, c'est devenu son langage. Il travaille ses textes comme il travaillerait comme un compositeur travaillerait un morceau de musique, en fait. Donc on a, je trouve, quand même une sorte de filiation un peu imaginaire qui se fait, enfin, j'ai l'impression, dans ce que j'ai entendu ce soir, des auteurs. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il développe sa propre originalité en s'emparant, par exemple, d'une figure comme Céline Dion, qui est non seulement connue en plus au Québec, mais qui est connue internationalement. Donc ça fait référence, enfin, tout le monde est capable de comprendre cette référence et de la manière dont il s'en saisit, effectivement, sans complexe, comme tu disais. Et ça, je pense qu'effectivement, ils ont acquis, à partir des années 80, une liberté au niveau de l'écriture, qui est plus à conquérir, en tout cas.
Je le disais à l'instant, donc ton travail porte sur tes auteurs de la génération précédente. D'abord, peut-être te demander pourquoi le choix de ce travail sur la dramaturgie québécoise, et puis pourquoi aussi cette génération-là en particulier.
En fait,
on pourrait citer quelques noms peut-être des gens sur lesquels tu travailles. Tu as dit Tremblay, Larry.
Larry et Tremblay, oui. En fait, c'était vraiment, je suis partie de Daniel Danis.
Tout le monde voilà. Parle de Daniel Danis.
Et j'ai remonté.
Bon, ok, on va faire un blanc. Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Danis,
il faut lire.
Vous pourrez voir, notamment, il faut le dire, bien sûr, et puis vous verrez au Centre Wallonie-Bruxelles en face, les 11, 12 et 13 décembre, un spectacle qui a été créé il y a un an à peu près, qui s'appelle Kiwi. Ouais. Et donc, au moins, vous saurez de quoi est fait Daniel Danis.
Et c'est sa première mise en scène,
oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais donc oui, je suis partie donc de Daniel Danis et j'ai en fait déroulé le fil petit à petit. Et à un moment donné, dans un travail de thèse, on est obligé de définir un champ de recherche. On ne peut pas tout dire. Donc j'ai pris le parti pris de commencer aux années 80 parce qu'il y avait une vraie rupture, un vrai basculement dans l'écriture. Enfin, j'avais la sensation, en tout cas l'intuition, que ça se passait à ce moment-là, qu'il y avait une rupture formelle qui était intéressante à exploiter. Et puis, ça, du coup, effectivement, j'ai commencé à travailler sur Normand Chorette, sur René-Daniel Dubois, que j'ai déjà cité. Ces auteurs-là m'ont amené à Jean-François Caron, qui m'ont amené ensuite à Larry Tremblay, à Carole Fréchette. C'est un peu comme ça que s'est constitué le corpus de mon champ de recherche.
Quand on connaît un peu le théâtre québécois, on se dit que ces choix ne sont quand même pas effectivement neutres, c'est-à-dire que c'est quand même une sorte de famille, ces auteurs québécois, qui ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de l'écriture de la même époque. Est-ce que tu en es consciente de ça?
Oui et non, c'est-à-dire qu'on me l'a déjà dit, mais en même temps...
Je veux dire, par exemple, un Michel-Marc Bouchard, par exemple, n'est pas dans ton corpus. Et effectivement,
il aurait très bien pu en faire partie. Je trouve qu'il y a quand même dans les jeux de mise en abîme, dans l'affirmation de la théâtralité, dans les problématiques même, par exemple, de l'homosexualité sur le plateau, on la retrouve aussi chez René-Daniel Dubois ou chez Normand Chorette. Donc après, c'est peut-être des affinités qui sont des affinités électives, enfin personnelles, mais qui ne sont pas non plus... qui sont contestables, effectivement. C'est des choix que j'ai fait à un moment donné de ce parcours, mais je pense qu'il n'est pas... il appartient aussi à cette famille-là. Donc oui, il y a des auteurs que j'ai mis de côté, parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas travailler sur toutes les pièces de chaque auteur, ni sur tous les auteurs qui existaient, qui existent encore au Québec à ce moment, dans cette période-là en tout cas.
Tu as touché un mot déjà sur le sujet, j'aimerais y revenir tout à l'heure. Cette génération, qu'est-ce qui la distingue, par exemple, de Michel Tremblay, et notamment de cette affirmation, ça je pense que c'est un fait qu'on ne contestera pas trop, que bon, les belles-sœurs ont marqué effectivement l'histoire de l'écriture au Québec, parce que c'était une langue différente, finalement, la langue d'un quartier de Montréal, le joual, en gros...
On peut même aller jusqu'à dire qu'il y a une langue du Québec.
Du Québec.
Oui, c'est ça,
voilà. Une appropriation de la langue.
Absolument.
Du quotidien.
La première chose, la deuxième, c'était les gens, les petites gens de là-bas, et non plus des gens, soit de manière plus universelle, soit des gens venant d'ailleurs. Donc, il y a bien d'autres caractéristiques. Puis un certain nombre d'auteurs ont été les petits-enfants ou les enfants, les petits-enfants de Michel Tremblay. Ceux-là, cette génération, c'est peut-être la première génération qui se distingue, qui dit Michel Tremblay, non pas je connais pas, mais j'ai pas envie de me positionner par rapport à lui, et qui aussi dans leur écriture, finalement, arrive à se distancier de cette identification au premier degré en montrant la société au premier degré aussi sur scène.
Oui, mais c'est pas l'envie de ne pas se positionner, je crois, par rapport à Michel Tremblay. C'est une façon de se positionner contre Michel Tremblay, je crois, aussi. De faire un retour comme ça sur l'individu, je disais, sur l'intime. sur le plan formel aussi, c'est vraiment une affirmation des dispositifs dramaturgiques qui est très forte, alors que chez Michel Tremblay, c'était de façon, d'une certaine manière, en arrière-plan. C'est-à-dire que, par exemple, Les Belles-Sœurs, on peut aussi l'interpréter comme une tragédie grecque, presque. Enfin, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui joue, mais c'est pas affirmé. Alors que, effectivement, les auteurs, à partir des années 80, affirment qu'ils ne sont pas dupes, en fait, des formes desquelles ils s'emparent et jouent avec celles-ci. J'ai déjà parlé un peu de ces structures de mise en abîme qu'on retrouve énormément au début des années 80. C'est aussi des auteurs qui interrogent beaucoup la création, c'est-à-dire la figure du créateur, la figure de l'auteur. C'est vraiment des personnages qui reviennent de façon récurrente. Presque chaque auteur, que ce soit Chauret, Dubois, Caron, à un moment donné, ont questionné la figure de l'auteur par rapport à leur individualité propre, mais aussi par rapport à la société, je crois. Quand même, qu'est-ce que c'est qu'un geste artistique aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire qu'écrire du théâtre aujourd'hui pour eux? Enfin, je crois vraiment que c'est quand même quelque chose qui est, en ce sens-là, il reste quand même quelque chose de l'ordre du politique, peut-être pas de la politique effectivement, mais du politique, c'est-à-dire un positionnement par rapport à la cité.
Est-ce que tu voudrais dire par là, sans transformer trop, qu'au départ, il y avait une volonté d'identité claire, je suis Québécois, nous sommes Québécois, nous avons notre culture, et que la question se pose moins à cette génération, elle se pose en d'autres termes, c'est-à-dire l'affirmation de l'individu dans cette société, et notamment l'individu à l'intérieur même de la corporation de la création?
Oui, je crois vraiment. Le Québec, c'était quand même quelque chose de très récent. Et que, par exemple, Les Belles-Sœurs, ça a été vraiment au moment de l'affirmation identitaire collective. C'était vraiment la première fois, pas seulement Michel Tremblay, mais aussi tous les auteurs du Refus Global et de d'autres, de toutes les strates intellectuelles qui, à un moment donné, se sont fait les porte-voix d'une société et d'une population. En ce sens-là, effectivement, c'était très fort. On est passé après, effectivement, dans les années 70, à une parole collective qui passait plus par la création collective, justement, et moins par la parole des auteurs. Et je pense qu'à la fin des années 70, et avec le fameux référendum et le non-référendum, les auteurs... Enfin, il y a eu quand même une espèce de choc, en tout cas, de ce que j'ai compris chez les intellectuels, et une remise en cause de leur positionnement et de leur place dans la société, et qu'effectivement ils en sont revenus peut-être à une parole plus singulière, enfin plus personnelle et plus singulière.
Dans le corpus de Marie-Aude, il y a Larry Tremblay. Tu nous as dit tout à l'heure que Larry Tremblay avait été ton choc. Ce spectacle, d'ailleurs, qui a été créé au Québec par Claude Poisson, mais qui a été créé ici, pratiquement en même temps, oui, ici par Garand, au TILF, à l'époque, et aussi en Belgique par une autre compagnie. Donc voilà une pièce qui, tout à coup, naît en même temps, dans trois communautés. Est-ce que ce n'est pas un signe, ça, quelque part, aussi, de l'évolution de l'écriture québécoise?
Moi, je suis un peu fatiguée, donc j'ai plus de difficulté à m'exprimer dans ce temps-là, mais j'ai l'impression que c'est aussi ça, la nouvelle génération d'auteurs. C'est des auteurs qui voyagent, qui sortent du Québec, qui s'intéressent à un extérieur que peut-être les auteurs d'avant... les auteurs, mais même... juste les artistes en général, on était plutôt confinés dans notre truc, parce que exactement ce que tu as dit, pour définir les contours de notre société, je pense qu'il y avait vraiment réellement un besoin de savoir qui on est, où est-ce qu'on se situe par rapport au monde. On n'a pas eu l'indépendance, donc ça a remis énormément de choses en cause, comme tu disais. Mais là, avec toute la mondialisation, je pense que ouais, c'est ça beaucoup, la nouvelle génération d'auteurs, c'est des gens qui sortent du Québec, beaucoup, qui sortent pour y revenir, bien sûr, qui y reviennent, mais qui s'intéressent vraiment, ou qui cherchent à se positionner pas tant par rapport au Canada, ou par rapport aux frontières proches, mais par rapport au monde. Et voilà, Je ne sais pas si je réponds à la question.
Oui, tout à fait. Je pense que tu mets surtout sur la table quelque chose d'intéressant qui va rejoindre d'autres réalités. C'est la problématique du voyagement. On a l'impression que les auteurs aujourd'hui, et pas seulement québécois, n'ont pas seulement comme préoccupation le nombril de la société québécoise, mais la confrontent sur le terrain avec d'autres sociétés, puisqu'ils vont vivre. On parlera peut-être de Ducrot tout à l'heure, de Philippe Ducrot avec l'affiche. Mais c'est un peu deux expériences que vous avez vécues, que vous vivez ou que vous provoquez. On va peut-être te demander de nous parler un peu de cette expérience, donc d'un organisme, on ne va pas entrer dans les détails, mais qui s'appelle le Centre des auteurs dramatiques, qui vient de fêter il y a 2 ans, je pense, ses 40 ans, c'est quand même une grande pratique, avec d'abord tout un travail interne au Québec qui continue d'aide aux auteurs, de mise en évidence, de mise en lecture, les fameuses semaines de la dramaturgie et tout. Et puis en même temps, à un moment donné, l'envie de créer des rencontres, donc d'organiser des résidences où on invite des auteurs étrangers, et puis surtout d'encourager les auteurs à aller dans un cadre de réciprocité, voir ailleurs si le monde tourne différemment. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience que tu as vécue, toi, en tant qu'assistante dramaturge, enfin, que dramaturge, pour nous expliquer peut-être ce qui fait que les auteurs dramatiques québécois sont un peu privilégiés par rapport à nos auteurs?
Alors déjà, pour l'anecdote, on était quand même dans un village qui s'appelle Le Bic, qui est à 6 heures de Montréal, au bord du Saint-Laurent, à cette période de l'année. Donc, enfin, voilà. Je le précise parce que c'était quand même assez paradisiaque et ça compte, puisqu'on était. Donc, il y avait 6 auteurs présents et on était 2 conseillères dramaturgiques. Donc, les 6 auteurs, il y avait 4 auteurs québécois, une auteure algérienne, dont on entendra un texte, je crois, et un auteur togolais, Léonard Yacanou. Et donc, on s'est retrouvés pendant presque 3 semaines dans une auberge, voilà, dans la campagne, autour du projet de chacun. Je précise un petit peu comment ça se passe. En fait, chaque auteur arrive avec son projet d'écriture. Donc, selon les auteurs, il y a des auteurs qui avaient... voire 2 versions d'une pièce à terminer. Et en fait, chacun est là... Alors à la fois dans la solitude de sa chambre et de l'écriture pendant 3 semaines, mais en même temps, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on était aussi invité par un théâtre, le théâtre du Bic, et que l'enjeu, c'était de présenter une lecture d'extrait à l'issue des 3 semaines. Donc, en fait, le travail vraiment se partageait entre ces moments solitaires, donc pour les auteurs, ponctués de rendez-vous donc avec Elisabeth Bourget ou moi, où là... L'enjeu, c'était... Alors, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce travail-là, surtout en France. Moi, j'entends beaucoup que voilà, les auteurs québécois ont besoin de coach ou qu'on leur dit comment écrire. Non, pas du tout. C'est simplement un dialogue. Donc, selon les besoins de chaque auteur, il y a des auteurs qui avaient plus ou moins besoin de parler, d'expliquer leur projet et d'entendre des choses. Et donc voilà, c'était des rendez-vous comme ça individuels, mais aussi des séances de dialogue. Et ce qui est troublant, pour revenir aux échanges, c'est que ces 6 textes, au final, ont des parentés très fortes entre eux, enfin, il me semble, donc des thématiques qui reviennent. Et par exemple, pour citer un des textes d'un auteur qui vient d'Acadie, qui s'appelle Marcel Romain Thériault, son texte, je crois qu'il vient de le terminer, s'appelle « La persistance du sable ». Et il y a toute une partie africaine, en fait, dans son texte, qui est née de la rencontre avec Léonard Yacanou, l'auteur togolais. Et donc, Marcel Romain fait un parallèle entre un fait de société très précis, qui est l'expropriation des habitants d'un parc naturel en Acadie, à Kouchibouguac, je crois,
on dit comme ça. Voilà.
Et le travail d'un Québécois en Afrique sur le terrain avec des Africains, et donc ça s'appelle La persistance du sable. Il y a cette image du sable qui circule, et voilà, je trouve que cet exemple-là, ce texte-là, est emblématique de ce qui a pu se passer pendant la résidence. Après, un autre exemple, alors c'est peut-être les coïncidences, c'est peut-être les dialogues qui circulent, c'est que il y a des fantômes dans tous les textes de cette résidence qui reviennent, enfin des fantômes, des voix, des présences du passé. Voilà, enfin, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des textes parce qu'il y en a qu'on va entendre tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, il y a 6 auteurs qui viennent pour un travail individuel sur leur texte, sur un projet déjà établi. Et finalement, il y a quand même une grande ouverture et une grande écoute qui se crée et des choses qui circulent et une vraie curiosité. Et donc, finalement, on se retrouve avec des textes où voilà, l'Afrique arrive au milieu du parc naturel de Kouchibouquac.
On ne va pas pouvoir développer ça davantage, mais on parlait aussi finalement de cette existence du CEAD et du rôle avec des critiques, avec des remarques extérieures aussi, hein, et des remarques intérieures. D'ailleurs, je sais que c'est une association qui évolue, une institution qui évolue, mais il y a une deuxième institution qu'on ne peut pas passer sous silence, donc peut-être on aura plus l'occasion après, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on prend une liste d'auteurs au Québec, on a au moins la moitié, quelle que soit la liste, qui sortent de l'École nationale du théâtre du Canada. Est-ce que quelqu'un peut dire deux mots sur cette école?
Bon.
Marie-Aude,
ils ont une section. Moi, ce que j'en sais, c'est qu'ils ont une section d'écriture, enfin un programme, ce qu'ils appellent un programme d'écriture, de création littéraire,
théâtrale,
dramaturgie, et que ils sont encadrés pendant 3 ans.
Mais que leurs spectacles sont joués par les étudiants comédiens et ainsi de suite. Donc, c'est une vraie institution qui fait que un auteur qui entre là, quelques mois après, sa première pièce, elle est déjà jouée, qu'on les oblige à écrire du théâtre jeune public, par exemple, et ainsi de suite. D'où, enfin, on ne va pas insister là-dessus,
oui, mais
ce sont des institutions qui peuvent expliquer aussi une certaine forme d'évolution, qu'on a très bien vu, je fais une petite parenthèse, parce que je sais qu'il y a dans la salle des gens qui étaient là, on a eu l'occasion à Limoges, à l'occasion des 25 ans de Limoges, de voir une lecture de 25 extraits de pièces québécoises, et quand on entend ces courts extraits en suivant, on se dit, il y a une vraie dramaturgie québécoise. Enfin, voilà, ça explique peut-être. Mais on va y revenir, à notre thème, en passant par le jamais lu. Donc, Morena, tu avançais le voyagement des auteurs. C'est un peu ce que tu fais aussi dans le cadre de ton festival.
Oui, ben, en fait, c'est pas ce que je fais uniquement. Mais on essaie de vraiment se faire. En fait, c'est pas... Moi, je dirais ce qui a principalement changé au cours du temps aussi, on parlait tout à l'heure des générations, puis ça, c'est propre, pas juste au Québec, à l'ensemble de la vie, c'est l'ennemi, entre guillemets. Parce que c'est sûr qu'un auteur cherche toujours à se positionner dans sa société contemporaine. Et c'est vrai qu'au Québec, il y a peut-être 40 ans, quand le CEAD est né, etc., le combat était d'exister en tant que nation québécoise, de faire de notre langue un véhicule artistique. Et maintenant, l'ennemi, je dirais, c'est l'isolement. En fait, je pense qu'on est vraiment à l'ère de franchir les frontières, d'essayer d'appartenir à une parole qui circule. Moi, je crois beaucoup à la singularité des paroles, mais dans cette espèce de grand ensemble, je veux dire, tout le monde prend l'avion, les gens, quand tu peux... Tout le monde, c'est une grande généralité, mais disons que le voyagement, les frontières s'amenuisent par Internet, etc., etc. Et donc, pour l'auteur, le défi des prochaines années est forcément de garder sa singularité, mais de l'inscrire dans un dialogue global avec l'ensemble des spectateurs qui se trouvent à la fois à la porte d'à côté, dans la rue d'à côté, mais à la fois en Belgique, à la fois en Afrique, à la fois... Et donc, ça, c'est un réel défi. Et c'est vrai qu'au Québec, ça commence à se faire, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. La réciprocité est difficile parce qu'on a tellement passé de temps à se définir soi-même que maintenant, inviter les gens, on a encore cette espèce de vieille mentalité que donner une plage horaire dans une saison théâtrale à un étranger, c'est l'enlever à un auteur québécois. Et ça, pour moi, c'est vraiment...
Ah ouais.
Et donc, le jamais lu, on essaie de se battre contre ça. Il y a toujours 2, 3, 4 auteurs qui viennent. Cette année, on travaille aussi, on fait venir des metteurs en scène étrangers, travailler sur des textes québécois, des metteurs en scène québécois qui travaillent sur un texte algérien, d'essayer de faire bouger ça un peu pour que la parole soit comme singulière dans un dialogue commun. Voilà, je dirais ça. Mais c'est le défi des prochaines générations, je pense.
Oui. Je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que ça sous-entend que les auteurs québécois, ils sont joués au Québec. Ce qui n'a pas été le cas forcément, je pense, de certaines générations d'auteurs en France et encore moins en Belgique, par exemple. Il y a par exemple un théâtre qui se consacre entièrement au théâtre, enfin même plusieurs, on pourrait dire un ou deux.
Mais c'est vrai, puis c'est pas saugrenu. Mais tu sais, juste vraiment à titre d'exemple, tu sais, bon, je suis pas très vieille, j'ai réussi à. On a, y a un festival, mais c'est. Il y a des filles formidables qui ont créé le OFF Festival Transamérique il y a 2 ans. Mmh. Elles ont à peine 30 ans. Il y a de l'espace pour faire des choses. Ça existe. C'est vrai que le système d'édition n'existe pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a une non-reconnaissance du statut de l'artiste par rapport, par exemple, ici en France. Mais par ailleurs, il existe de l'espace pour faire des choses. Donc, les auteurs sont montés, les paroles sont quand même entendues. Il faut se battre. On s'entend, faire du théâtre, c'est jamais facile. Il faut toujours se battre. Mais il y a de l'espace pour le faire. Donc, oui, ça, c'est une richesse. Mais...
Au niveau du voyagement, évidemment, on peut aussi souligner l'importance que l'écriture vagabonde a prise dans le brassage des auteurs. Hein. On parlait, Carole Fréchette était avec nous tout à l'heure, Nabil El Hazan aussi, qui a monté une version de son texte « Le collier d'Hélène » et qui recommence d'ailleurs avec, dans d'autres pays. Cette présence de ces auteurs dans les projets d'écriture vagabonde a été grande et on a vu apparaître, pas seulement grâce à ça, mais des préoccupations comme celle de Philippe Ducrot. Alors Philippe Ducrot, donc, c'est un auteur de la jeune génération, un jeune auteur.
37 ans.
Voilà. Elle connaît les âges de tout le monde, c'est extraordinaire.
Et c'est vraiment précis.
Je ne vais pas parler de moi, sinon elle va dire quel âge j'ai aussi. Donc,
je fais des blagues.
Mais est-ce que je me trompe en disant qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'auteurs comme lui qui se positionnent en disant nous sommes des auteurs qui ne pouvons plus nous préoccuper de nos petites misères québécoises, mais que ce qui se passe dans le poste, hein, ce qu'on voit là, ça nous intéresse aussi, on a envie d'aller voir sur le terrain. Avec une difficulté, Marcel, dont on parlait tout à l'heure, que j'ai vécu moi personnellement, c'est que cette ouverture, par exemple, à d'autres mentalités, la société musulmane et ainsi de suite, quand les Québécois, les comédiens québécois qui n'ont pas fait tout ce voyagement pour aller découvrir, sentir petit à petit. Entre parenthèses, Philippe Ducrot a écrit un carnet sur sa rencontre qui est très intéressante. Ben, les comédiens québécois ont beaucoup de difficultés d'entrer dans ces écritures nouvelles, je me trompe?
Non, mais non, c'est vrai que c'est le même chemin. Je pense que le jeu, puis c'est le milieu du théâtre, mais comme le reste de la société, encore là, ça va tout ensemble. C'est une évolution globale. Mais c'est vrai qu'on est rendu à sortir de cette espèce de fer de lance, de dire nous sommes Québécois, etc., pour arriver à porter des paroles plus larges, plus vastes. Ça, c'est vrai que les comédiens ont tellement... ont eu une formation qui se situe entre le classicisme... Ben, tu me corrigeras, vu que tu es bien plus comédienne que je puisse être. Mais entre à la fois le respect des textes classiques, donc avec un phrasé international, entre guillemets, et à la fois un respect des auteurs... qui ont forgé l'identité québécoise, donc plus avec un joual, etc. C'est vrai que quand tu arrives avec une littérature plus... une dramaturgie plus contemporaine, plus jeune, qui ne se situe pas forcément sur le territoire québécois, mais non plus dans un territoire historique, ils sont un peu dépourvus, c'est vrai. Voilà, je trouve.
Marina?
Ouais, ben moi, je trouve que, oui, les artistes, ou même les Québécois en général, c'est quand même caractéristique, je trouve, de la culture, de se sentir facilement menacée par ce qui vient de l'extérieur à cause de ce complexe d'identité qui n'a jamais été vraiment défini. Peut-être d'ailleurs par manque d'ennemis, je me dis moi des fois. Mm-hmm. Bon, on avait les Canadiens anglais à combattre pendant l'impérial, mais à un moment donné,
c'est bon.
On s'est rendu compte qu'il n'y a pas juste les Canadiens anglais, il y a des Canadiens français qui ne veulent pas l'indépendance. Donc. Et puis là, avec tous les changements économiques, mondiaux et tout, il est où l'ennemi? C'est finalement, chacun s'enferme chez soi. Et c'est ça, c'est l'isolement, exactement. Et du coup, je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'occurer, justement, de par des... on le lit dans le texte de Philippe Ducrot, justement, il dit qu'il faut retourner dans la rue, il faut se rassembler à nouveau, il faut aller voir le monde, il faut... je pense qu'il y a vraiment un changement qui est en train de se faire au niveau du Québec, mais il y a encore cette mentalité-là, ouais, de menace. On se sent facilement menacé, ouais.
Il nous reste une dizaine de minutes. Je voudrais peut-être aborder à travers les différentes expériences une thématique inspirée d'une réflexion personnelle. On m'a un jour demandé de faire un portrait du spectacle québécois type. Et j'ai essayé quand même, avec tout, bon, avec humour et distance, de raconter quand même que c'était une famille où le père homosexuel. Enfin voilà, et toute une série de clichés comme ça, qui étaient incontestablement inscrits dans une génération de textes, et qui aujourd'hui, j'ai presque envie de dire heureusement, sans jugement de valeur, bon, n'est plus tout à fait vrai. Mais ce qui me semble quand même très vrai encore aujourd'hui, quelle que soit la génération des auteurs, c'est la mise en évidence d'une société très, très noire, très sombre finalement. Pas de famille, pas d'école, pas d'avenir. Et ça, j'ai l'impression que ce sont des thématiques qui n'ont pas beaucoup évolué, alors que la société québécoise me semble avoir évolué, dans les deux sens d'ailleurs, évolué d'abord de manière positive, et puis le mot récession comme ça est venu dans toutes les bouches, et aujourd'hui, ben, malheureusement, les événements qui nous touchent, nous touchent aussi de manière différente le Québec. Comment est-ce que, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, cette présentation d'un côté très noir de la société, très dur, très, très négatif finalement, ou en tout cas sans véritable espoir? Est-ce que aussi dans les auteurs que vous avez travaillé, vous retrouvez ça ou le contraire?
Moi, je ne suis pas sûre en fait, que ce soit une spécificité québécoise pour le coup. Je crois qu'il y a une mise en crise et un regard noir, enfin noir, un regard sceptique ou en tout cas interrogateur sur le monde qui traverse toutes les écritures enfin la plupart des écritures contemporaines. Enfin, quand on regarde les écritures européennes, que ce soit Sarah Kane, Martin Crimp, Shimal Fenning, Mignana, enfin, je ne sais pas spécialement gay non plus. Il y a aussi une interrogation du monde, de la façon dont il passe par les médias. Mignana a fait tout un travail sur le fait divers. Enfin, il y a vraiment comme ça quelque chose qui jalonne vraiment toutes les écritures et qui traverse, je pense, plus les sociétés occidentales. Enfin, je connais beaucoup moins les autres, en tout cas. Et que le Québec se rattache à ces mouvements-là, enfin, à ces interrogations-là, en tout cas. Je ne crois pas que ce soit une spécificité québécoise en particulier.
Mm-hmm. Deux choses, et déjà, comme ça, en réfléchissant au spectacle québécois type, je ne sais pas, j'en ai pas vu beaucoup, mais ce qui me frappe, c'est une colère, peut-être plus que... Enfin, il y a le regard noir, mais comme tu dis, c'est vrai qu'on peut le retrouver chez beaucoup. J'ai cette sensation qu'il y a un peu plus de colère, pour le dire, peut-être. Mais en même temps, en le disant, j'ai aussi des contre-exemples. Donc c'est plus de l'ordre de la sensation. Et puis, l'autre chose, moi, qui me frappait en travaillant sur les textes des auteurs de la résidence, c'est que la plupart des textes étaient soit vraiment tournés sur le présent, sur des faits de société, soit sur le passé aussi, remontés aux racines. Enfin, on entendra le texte de Sébastien tout à l'heure. Il y avait aussi un texte de Pascal Brûlemans qui parlait justement de la Révolution tranquille, de toute cette période-là. Mais par contre, l'impression que ces textes butent sur l'avenir. Et je termine sur une anecdote, c'est que le texte qu'on va entendre de Pierre-Luc Lassalle, avant de s'appeler L'effet viral, s'appelait Après-demain, sans trait d'union, parce que c'est beaucoup plus triste quand rien n'unit après à demain. C'était, voilà. Mmh. Ça me paraît assez emblématique.
Tu travailles sur Sébastien Risson, enfin, tu connais bien son travail. Comment tu le positionnes par rapport à cette noirceur dont je parlais? Ou au contraire, est-ce que lui s'en dégage?
Oui, c'est vrai que je n'ai pas la sensation que Sébastien soit dans une noirceur, ni même dans une colère. Donc voilà. Tout en parlant, j'avais cette idée-là. Mais j'ai l'impression, par contre, qu'il va chercher loin dans les racines des dysfonctionnements. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du texte puisqu'on l'entendra tout à l'heure, mais il part d'un dysfonctionnement technique qui est une panne d'éolienne, et il remonte à l'histoire d'une famille jusqu'aux années 60 pour en trouver la cause finalement, et dans Titanica, qui était sa première pièce, qui a été montée au Théâtre National de Strasbourg. Il mêle donc les fantômes d'Édouard II, de la reine Isabelle et le scandale du sang contaminé. Donc il y a peut-être peut-être pas un espoir, mais en tout cas un souffle dans la volonté d'aller chercher loin dans le passé et d'entremêler comme ça les époques, les problématiques. Donc c'est vrai que c'est pas désespéré dans la mesure où ça part de très loin en arrière, donc on a quand même un mouvement qui peut nous amener plus loin devant.
Vas-y.
Non, mais petite parenthèse, mais il y a quand même des personnages qui rêvent aussi, tu sais, dans la littérature, côté théâtral, au niveau de
thé. Francis Monty, peut-être, par exemple, dans la jeune génération, dans le rêve, il est souvent.
Oui.
Il y a du noir aussi, Francis.
Oui, quand même, c'est vrai. Mais, jeune génération, bon, il y a Daniel Danis.
En fait, son agent est dans la salle et il leur a donné une pièce pour parler beaucoup.
Donc, il y a Daniel Danis, mais attends, je pensais à quelqu'un d'autre.
Viens au secours.
Il y a dans la même génération, Carole Fréchette aussi, d'une certaine façon.
En fait, Carole Fréchette, son dernier succès finit par quand même une phrase tellement pleine d'espoir et tellement magnifique qui est « On ne peut plus vivre comme ça ». Alors si ça, c'est noir quand même. Non, c'est une ouverture quand même. C'est le texte, en fait, les textes québécois qui tournent le plus en ce moment. Il finit sur une phrase magnifique et « On ne peut plus vivre comme ça ». C'est bon. C'est plein d'espoir. Non?
Après, ouais, c'est ça. Il y a peut-être aussi un choc de culture au niveau de l'interprétation de la noirceur. Tu sais, peut-être que nous, on aborde peut-être plus le théâtre d'une manière. Comment je dirais? On plonge plus facilement dans la catharsis, je pense, pour justement. Tandis qu'en France, il y a beaucoup plus de détachement par rapport à ça. On va poser des mots sur les choses et tout, tandis qu'au Québec, on va les expurger, tu sais, pour crever les abcès, tu sais.
Sans généraliser, bien sûr.
Oui,
bien sûr.
Marcel, toi, tu...
J'allais dire, c'est curieux, j'ai rien à dire pour ma défendre, puisque le texte que vous allez voir tout à l'heure s'appelle quand même « Œuvre de destruction ». C'est... Très rose bonbon, bien sûr. Non, c'est très noir comme œuvre, mais c'est drôle, c'est curieux. En fait, la question, je la trouve, elle m'interpelle beaucoup parce que quand j'ai commencé à écrire, mon premier texte, disons, qui a connu la scène de façon plus professionnelle, plus sérieuse et plus reconnue, s'appelle quand même « Condamné à aimer la vie ». Et j'avais une réelle volonté de me placer en porte-à-faux justement par rapport à cette analyse-là, en disant ce qu'on propose... aux ados, aux adultes, aux enfants, toute littérature confondue est quand même un peu sans issue. Et donc, j'ai fait 3-4 œuvres, même celle sur laquelle je travaille en ce moment, Jam Pack, qui va être présentée en novembre, dont il y a quand même beaucoup d'humour. Il y a une lumière, même si ça grince, même si c'est mordant, même si c'est cynique, c'est critique. Il y avait un souci de lumière, malgré tout. Et quand je suis arrivée, il y a 3 ans, quand j'ai commencé l'œuvre de destruction, vous allez voir, j'étais dans une telle morosité personnelle et je regardais autour de moi. Et c'est vrai que, et quand on parle d'état social, c'est vraiment ça. Je regardais mes amis, tout le monde travaille trop, la conciliation travail-famille est impossible. Nos soldats qui ont toujours fait la paix s'étaient mis à faire la guerre. Nos gouvernements s'enlignaient sur la droite. Et là, tu dis... tout à coup, tu vois cet espoir-là comme une défaite pour ne pas penser à aujourd'hui, pour ne pas penser, en fait... Avant d'espérer, il faut toujours bien régler ce qui se passe aujourd'hui. Et là, j'ai prolongé dans la noirceur, moi aussi, à ce moment-là. Voilà.
Mais je propose qu'on termine là-dessus, puisqu'on va en pouvoir entendre ce texte tout à l'heure. Merci à vous quatre. Et puis, j'espère que ça vous a quand même donné envie d'aller découvrir ces générations successives. Là, je peux témoigner à titre personnel qu'il y a non seulement une grande inventivité dans le théâtre, dans les formes, et ainsi de suite, mais que, en ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, depuis quelques années, il y a un éclatement complet, à la fois des thématiques et des formes, des propositions. On retrouve, on en avait déjà connu au Québec, pas mal de textes qui jouent sur l'absurde, aussi, comme on commence à redécouvrir en Europe. Bien entendu, on a entendu ensemble, par exemple, le texte de Louis-Dominique Lavigne, qui est tout à fait différent de ce qu'il écrit d'habitude. Donc, on peut dire que je m'adresse surtout aux Québécois, on vous envie parfois de cette diversité et de cette richesse aussi, et dont on a encore fait la démonstration, notamment aujourd'hui, en écoutant les textes. Merci à tous.
Merci.